8 janvier, je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon midi. Salutations aux auditeurs du 104.7 à Ottawa-Gatineau. Je vous souhaite, oui, la bienvenue pour cette dernière de Normando PM, ne versez point de larmes. Bernard reprendra le collier lundi dans le cadre de la programmation régulière. Mais ça me fait vraiment très, très plaisir d'animer cette dernière émission, d'autant plus qu'on est gâtés par l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui retiennent notre attention ce midi. Bien sûr, cette conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais également dans l'actualité, une grosse nouvelle sur le plan judiciaire, l'affaire Hugo Fradette. Vous vous rappellerez peut-être de cette affaire qui s'est déroulée en octobre, à l'automne 2017. L'homme Hugo Fradette, l'homme de 45 ans, a tué son ex-conjointe de 17 coups de couteau, Véronique Barbe. Il l'a tué chez elle à Saint-Eustache. Ça s'est déroulé le 14 septembre, oui, 2017. Il a aussi, dans sa folie, tué Yvon Lacasse, un homme de 71 ans, un automobiliste qui se trouvait dans une halte routière. Hugo Fradette s'en est pris à cet homme qui a perdu la vie, malheureusement. Il est accompagné d'un enfant à ce moment-là. Ce matin, la juge Myriam Lachance a rendu son verdict dans ce dossier important. En fait, ce que nous avons appris, c'est que Hugo Fradette est condamné à 25 ans de prison sans libération conditionnelle. La couronne souhaitait un 25 ans additionnel, c'est-à-dire 25 ans par meurtre. La juge Myriam Lachance a pris soin de livrer une ordonnance de non-publication pour ce qui est de l'identité de l'enfant qui accompagnait à ce moment-là Hugo Fradette. Un peu plus tôt, j'ai parlé à Daniel Barbe, le frère de Véronique. Évidemment, vous comprendrez que ça a été une épreuve extrêmement difficile pour lui, sa famille. Et j'ai parlé également à la juge à la retraite de la Cour du Québec, la juge Nicole Gibault. Alors, je vous fais tout de go entendre cette première entrevue que j'ai réalisée avec le frère de Véronique Barbe, cette victime, donc ex-conjoint de Hugo Fradette, assassiné chez elle le 14 septembre 2017. Son frère Daniel s'est confié sur la façon dont il a reçu cette décision de la Cour ce matin. Daniel, dans quel état d'esprit vous êtes après avoir accueilli le jugement de la décision de la juge Myriam Lachance ce matin?
On est un petit peu comme entre deux chaises. Le 25 ans, on est content, mais on trouve que la famille Lacasse, c'est un petit peu comme la fille de M. Lacasse disait ce matin, c'est comme si... Mais là, ça, c'est pas la faute des procureurs, la personne, je veux pas accuser personne, oui. C'est juste la loi qui est faite comme ça, puis l'équipe de Maître Baribault a fait un travail merveilleux, fantastique. Ils ont toujours été là, à l'écoute, répondre à toutes nos questions. Mais c'est juste ça, là. C'est que on sent que... Parce que c'est deux événements séparés. On aurait aimé ça qui sépare les deux causes. Comme ça, il y aurait pas 25 ans pour chaque cause.
Oui.
Mais là...
Mais Daniel, c'est important pour nos auditeurs de spécifier que Maître Baribault, auquel vous référez, c'est Maître Steve Baribault, qui était le procureur de la Couronne, qui était impliqué dans le dossier. Oui. Et la seconde victime, c'est M. Yvon Lacasse.
Oui.
Puis ça, vous avez raison d'insister, Daniel, sur le fait que ce sont deux événements distincts, mais la juge Myriam Lachance, compte tenu de l'état actuel de la loi et du droit, elle a livré une décision qui est similaire à celle qui était rendue dans le dossier d'Alexandre Bissonnette à Québec. Hein? Alors, on parle d'une peine de 25 ans sans libération conditionnelle.
Oui.
C'est un événement, évidemment, tout ça, là, ça fait, votre sœur a été, est disparue le 14 septembre 2017, ça fait plus de 3 ans que vous êtes dans les procédures judiciaires.
Oui.
J'imagine que vous êtes fatigué.
Ouf! je sais pas si on peut employer le terme fatigué, là, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est bien bizarre la manière qu'on se sent. Là,
vous êtes comme dans un état second peut-être, hein? Vous vivez des choses qui sont complètement surréelles.
Ben, peut-être, là, mais je veux dire, c'est pareil, je suis pas tout seul là-dedans, je veux dire, on a toute la famille sur notre côté, puis on a la famille de M. Lacasse aussi, là, j'imagine que...
Est-ce que vous avez développé une relation d'amitié avec les membres de la famille de M. Lacasse?
Oui. Puis on était supposé se revoir, mais à cause des événements, parce qu'on s'est vus à quelques reprises.
Okay.
On a même été, à un moment donné, à Cabane à sucre ensemble, avec la famille Lacasse, notre famille.
Ah oui, bien, c'est une façon pour vous, Daniel, de mettre un peu un baume sur tout ce qui vous est arrivé, j'imagine, non?
Ben, c'est parce que c'est une histoire qui a commencé avec ma soeur puis qui a fini avec M. Lacoste. Si je veux dire, on peut pas détacher l'un de l'autre. Là, je veux dire, on se sent aussi triste pour la famille de M. Lacoste qu'on l'est pour ma soeur puis pour mes parents, un enfant.
Triste et solidaire, hein, dans les circonstances. Daniel, vous me disiez avant qu'on ouvre le micro, vous avez 5 enfants, puis j'ai envie de vous demander comment on fait pour tenir le coup après avoir encaissé le choc d'une nouvelle que vous n'attendiez absolument pas, qui a été tragique, brutale. Comment on fait pour tenir le coup après toutes ces années?
Un peu les enfants. C'est, je veux dire, c'est la famille. On se raccroche à la famille. Il n'y a pas d'autre chose. On essaie d'apprécier le temps qu'on a parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut finir. C'est ça.
Est-ce que
la famille.
C'est la famille, c'est ça, c'est les enfants qui, au jour le jour, vous encouragent, papa lâche pas.
Ouais.
Oui,
c'est un peu ça, c'est pas dit comme ça. Là,
mais ça ressemble à ça, effectivement.
Ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment, Daniel, que justice a été rendue ce matin?
Justice. C'est un gros mot, je pense que. Si je prends ça juste pour ma soeur, je pourrais dire que oui.
Mm-hmm.
Si je prends l'ensemble du dossier, non, je suis pas. Je pense beaucoup à la famille Lacoste ces temps-ci, autant qu'on le peut, là. Mais on aimerait bien ça. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça les voir, mais là, avec la COVID et tout, c'est pas
c'est
possible.
C'est plus difficile, hein, effectivement.
Quand ça va être possible. On va faire en sorte de se revoir.
Oui, effectivement. Mais là, je comprends que vous avez noué des relations d'amitié à vie, là,
avec la famille Lacoste. Je ne sais pas, regardez, on verra, là.
Oui. Non, mais ça.
Après la prochaine rencontre, là, c'est sûr que moi, je vais faire tout mon possible pour qu'on ait une autre rencontre, là, mais oui. Ça va être possible.
J'imagine que ça vous a fait du bien, vous voir, de vous consoler mutuellement, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Pendant le procès. Oui, mais c'était pas. Vous savez, que quelqu'un, avec tout ce qui se passe dans la société présentement, là, versus les meurtres d'enfants, les meurtres de femmes, c'est fou, là. Mais c'est ça, je sais pas. C'est...
Pas facile. Dites-moi, est-ce que vous espérez que la couronne aille en appel de cette décision, que la Cour suprême puisse clarifier cette. C'est l'état du droit actuel pour qu'on puisse, que les familles des victimes puissent avoir le sentiment que justice a vraiment été rendue, là. Parce que là, actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est comme si, dans le fond, Hugo Fredette payait pour une victime, mais pas pour l'autre.
C'est ça. Mais au vu de ce que j'ai entendu, ma mère, puis la fille de M. Lacoste, ils veulent l'amener là, plus loin, puis dans le fond, ça va juste être correct pour les prochaines choses qui peuvent arriver, là. Je veux dire, ça va être un combat.
Un combat qui va se poursuivre. Vous allez trouver l'énergie, Daniel, pour mener, continuer le combat?
Ben, je pense que ça va se faire plus. Écoutez, c'est la famille. On encourage. Je pense que ça va être pas mal ma mère qui va être le boss du bateau puis qui va venir au bout, là. Mais.
Oui.
On va faire de notre mieux pour rester serré et s'encourager pendant tout le temps.
Écoutez, Daniel, malgré la COVID, on vous envoie toutes nos énergies positives pour la suite des choses. Moi, je salue votre courage dans ce qu'on peut appeler vraiment une très, très grande épreuve. Et puis, on va penser à vous, Daniel. On va vous envoyer des ondes très, très positives pour la suite des choses.
Mais je vous remercie beaucoup, puis pour vous de même, je vous envoie plein de positifs pour que vous puissiez tourner la page, vous aussi.
Merci beaucoup, puis je souhaite que vous puissiez un jour le faire, cher Daniel. Alors, au plaisir. Merci, Daniel.
Merci beaucoup.
Bye-bye. Bon, vous l'avez entendu, Daniel Barbe, le frère de Véronique Barbe, assassiné de 17 coups de couteau par son ex-conjoint Hugo Fredette. Je le rappelle ce matin, et son verdict est tombé. La juge Myriam Lachance, a confirmé une peine de 25 ans de prison sans libération conditionnelle. La couronne souhaitait le double parce qu'il y a une autre victime dans cette incroyable affaire. C'est M. Yvon Lacasse, un automobiliste de 71 ans, qui malheureusement s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a un auditeur qui nous écrit sur le 98-98-5 « Mon cœur bat très fort pour cet homme dont je sens l'émotion ». Effectivement, on sent que Daniel est très, très touché, perturbé, puis on serait évidemment à moins par cette histoire d'horreur qui a touché sa famille. Maintenant, je vous propose une entrevue avec la juge à la retraite de la Cour du Québec, Nicole Gibault, qui, elle, nous présente cette histoire sous l'angle du droit. Vous allez voir, tout comme Danielle Barbe, elle souhaite que la Couronne puisse en appeler de cette décision, que la Cour suprême puisse, une fois pour toutes, clarifier cet enjeu sur les peines consécutives. Juge Gibault, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Cette décision était très, très attendue. Hugo Fredette, on le rappelle, condamné à la prison à vie sans libération avant 25 ans. La Couronne réclamait une peine beaucoup plus sévère. En fait, on réclamait 25 ans par meurtre. Est-ce que vous êtes étonnée de cette décision de la juge Myriam Lachance?
Non, je ne suis pas du tout étonnée, Mme Normandeau, de cette décision-là, parce que on avait évidemment décidé dans la cause de M. Bissonnette. C'est la Cour d'appel du Québec et le plus haut tribunal a décidé que l'article comme tel sur les peines multiples, le bloc, qu'on additionne des blocs de 25 ans minimum avant l'admissibilité à une libération conditionnelle, était inconstitutionnel, invalide, qu'il n'y avait pas possibilité de l'appliquer. Alors, c'est sûr qu'il y a une règle en droit, et là, je parle strictement en droit, qu'on appelle le stare decisis. On doit, les tribunaux inférieurs, le tribunal inférieur doit suivre la décision du plus haut tribunal. En l'occurrence, ici, c'est la Cour d'appel du Québec. Donc, la juge Myriam Lachance n'avait pas vraiment de porte de sortie dans les circonstances. Et ça s'applique partout, là. Je veux dire, c'est pas juste... c'est contesté. Il va y avoir des contestations à travers le Canada parce qu'il y a d'autres décisions, Mme Normandeau, qui existent au Canada. Le code criminel, il est canadien, il n'est pas québécois. Il est canadien. Donc, il y a des décisions qui ont été rendues en Ontario la même journée. Exactement la même journée que M. Bissonnette, qui s'appelle Bruce MacArthur. Bruce MacArthur a commis sur une période d'environ 7 ans, 8 meurtres. Alors, c'est des circonstances différentes, là, puis c'est pas une seule circonstance, c'est sur une période de 7 à 8 ans. Et le juge a appliqué l'article, mais a dit non. C'est le 25 ans minimum prison à vie. Vous l'avez très bien soulevé, là. C'est oui. Une prison à vie. Alors, ce n'est pas une prison comme on entend régulièrement. Le client a eu 25 ans, ou la personne a eu 25 ans, ou un meurtre, c'est 12 ans et demi, l'autre meurtre, 12 ans et demi, l'autre... Ça se divise pas comme ça, c'est une prison à vie avec une possibilité de demander une libération conditionnelle. Donc, dans le cas de M. MacArthur, comme je vous parlais tantôt en Ontario, pour 8 meurtres, ça a été effectivement une décision qui est exactement la même. Et il y en a d'autres au Canada, mais... Ce qui va être important, là, c'est que ça se rende à la Cour suprême.
Ben voilà, parce que avec votre expérience, juge Gibault, vous avez été juge pendant de nombreuses années. Vous êtes maintenant à retraite, mais vous avez toujours un regard très aiguisé sur l'actualité judiciaire. Non seulement ça va être contesté, mais ça peut être contesté. En fait, l'état du droit fait en sorte que Hugo Fredette, par exemple, pourrait très bien appeler de cette décision et se rendre jusqu'en Cour suprême. À quelle probabilité vous évaluez cette possibilité qu'Hugo Fredette fasse appel de cette décision?
Moi, je pense pas que ce sera de son côté, parce que lui ne se plaindra pas de cette décision-là, mais je pense que c'est beaucoup plus les procureurs généraux et à travers le Canada. Je pense qu'il y a une ultime demande, là. On veut que la Cour suprême, les juristes en général, partout au Canada, d'un océan à l'autre, veulent qu'il y ait des balises, veulent que la Cour suprême nous dise ou dise, est-ce que c'est valide? C'est vraiment ultimement la Cour suprême qui pourrait nous aiguiser là-dessus, puis nous aiguiller les juristes à dire, effectivement, est-ce que c'est une disposition du code criminel qui est clairement inconstitutionnelle, invalide? Pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et si on peut l'appliquer dans quel cas, est-ce qu'on va mettre des nuances, par exemple? Est-ce que c'est possible de le faire avec une disposition législative? C'est sûr que le juge, dans Bissonnette, avait, lui, décidé de réécrire la loi. Or, on a compris que la Cour d'appel a dit non. Ce n'est pas au juge de réécrire la loi, c'est au législateur. Donc, ça prendrait une loi, ça prendrait un législateur qui dise, écoutez, cet article-là, il a été déclaré inconstitutionnel et invalide, on va réécrire l'article peut-être pas dans la même forme, peut-être avec des nuances différentes, mais on va imposer une autre loi, mais pas juste le laisser comme ça en suspens. Il y a des questions partout. Mais c'est dommage parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on applique ça juste au Québec. Ce n'est pas le cas. Et c'est tout le monde est sur le même pied d'égalité là-dessus. On est ambivalent. On ne sait pas pourquoi. Il y a des juges qui l'ont imposé. Il y a des juges qui ne l'ont pas imposé par bloc de 25 ans. Il y en a un qui s'en vient, Mme Normandeau, là, à Toronto. Il y a 10 victimes à Toronto avec fauchées avec un camion. Là. Est-ce qu'on va imposer 250? Alors, les principes qui ont été établis dans la décision de la Cour d'appel du Québec d'Abissonnette a bien dit, par exemple, qu'on c'est pas l'horreur qu'on ne veut pas reconnaître. L'horreur de un meurtre, deux meurtres, 10 meurtres, c'est incroyable, oui. Les dommages collatéraux. Mais ce n'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de notre droit? Est-ce qu'on peut le faire?
Parce que un des arguments de la Couronne, c'était, parce qu'il réclamait, faut-il le rappeler, Juge Gibault, 25 ans par meurtre, il y a eu 2 meurtres. Un des arguments du procureur dans le dossier de la Couronne, Maître Steve Baribeau, c'est de dire, il y aura, si le juge applique le 25 ans sans libération conditionnelle, c'est comme s'il n'y aurait aucune conséquence à commettre un second meurtre, pas même une heure d'incarcération de plus. Ça, j'imagine que c'est extrêmement frustrant pour les familles, oui, des victimes. Que tu fasses un meurtre, deux meurtres ou trois meurtres, dans l'état actuel du droit, t'es pas pénalisé pour l'ensemble des crimes que t'as commis, là.
Entièrement raison. Et c'est le même argument qu'on soulève dans le dossier, que les gens ont soulevé dans le dossier de MacArthur, que je vous parlais pour les huit meurtres dans la communauté gay à Toronto. Ce sont les mêmes arguments. Voyons, est-ce que c'est pas, sur une période de 7 ans en plus, est-ce que c'est possible un tueur en série qu'on lui applique seulement une seule fois une période d'inadmissibilité? Ce sont des arguments qui devront être sous-pesés. Il n'y a pas vraiment de mauvais arguments, là. Les arguments de Maître Baribeau dans le dossier de Hugo Fredette et dans le dossier de Bissonnette sont de bons arguments, mais qui n'ont pas été retenus, évidemment, par la Cour d'appel du Québec. Mais est-ce qu'ils seront retenus par la Cour suprême? Je vous dis, on espère vraiment, parce que sinon, on va se reparler. C'est agréable de se parler, mais on n'aura jamais, mais jamais de balises fixes. On saura jamais où se brancher si c'est et comme je vous disais, c'est tellement des transactions différentes aussi dans Hugo Fredette, parce que dans Hugo Fredette, c'est 2 meurtres totalement différents, des heures différentes, dans des endroits différents, pour des motifs différents, mais c'est la même chose dans le dossier de M. MacArthur.
Si je vous comprends bien, Juge Gibault, vous souhaitez, ce que je comprends, c'est que à mot à peine voilé, vous souhaitez que la Couronne puisse en appeler de cette décision, oui, auprès de la Cour suprême, pour qu'on puisse clarifier cette question liée au caractère inconstitutionnel de...
Oui. Je veux même pas que ça soit voilé. J'espère. Je veux pas que ça soit voilé. J'espère au nom de tous les juristes canadiens qu'un procureur général va déposer l'appel à la Cour suprême pour qu'enfin on ait une date d'audition là-dessus. Je l'espère vraiment.
Merci beaucoup, Juge Nicole Gibault. On le rappelle, vous êtes juge retraité de la Cour du Québec. Je vous souhaite une belle année, Juge Gibault.
Oui, vous aussi. Merci. Pareillement. Au revoir.
Au revoir. Voilà. Alors, c'est ces deux entrevues que je vous ai proposées pour faire le tour sur cette question entourant la condamnation, la sentence, en fait, qui a été livrée ce matin, rendue ce matin par le tribunal dans le dossier Hugo Fredette. Alors, prison à vie, comme le juge Nicole Gibault nous l'a dit, prison à vie, donc 25 ans de prison sans libération conditionnelle. Il y aura une suite à ce dossier. Daniel Barbe, le frère de la victime, nous a dit que sa mère, entre autres, va continuer de mener le combat pour qu'on puisse, à la Cour suprême, clarifier cette question du caractère inconstitutionnel du cumul des peines en pareilles circonstances. Presque 12h25, courte pause, on vous revient avec un dossier qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser aujourd'hui. Les aérosols dans la transmission par aérosol, imaginez-vous donc, joueraient un rôle, mais limité selon l'Institut national de la santé publique. Écoutez, je tombe en bas de ma chaise, je vous en parle dans quelques instants.